Vous êtes bien sur RFI, il est 23h en temps universel et minuit à Paris. Un point sur l'actualité à l'international avec vous, Antoine Gallen. Bonsoir Antoine.
Bonsoir, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, en France, un nouveau gouvernement avec un casting qui fait la part belle aux anciens noms de la politique française. Gérald Darmanin, Elisabeth Borne et Manuel Valls sont de retour. À Mayotte, jour de deuil national, 8 jours après le passage du cyclone Chido, les Mahorais demandent plus d'aide, vous l'entendrez. Dans ce journal également, plusieurs milliers de soldats nord-coréens tués aux côtés de la Russie face aux Ukrainiens. Précision à suivre de notre correspondante à Séoul, Camille Ruiz. Et puis, alerte maximale face au feu en Australie. Dans le Victoria, 40 000 hectares ont été ravagés et cela pourrait bien s'empirer. Voilà pour les titres, bienvenue. On prend les mêmes et on recommence. Après des jours de tractation, François Bayrou, le Premier ministre français, a annoncé son nouveau gouvernement. Des noms déjà présents dans le gouvernement de Michel Barnier ont été reconduits. Bruno Retailleau, toujours à l'intérieur. Rachida Dati reste à la culture. C'est aussi le retour d'anciens ministres comme Elisabeth Borne à l'éducation, Gérald Darmanin à la justice ou encore Manuel Valls à l'outre-mer. Un retour surprise pour celui qui a été nommé numéro 3 du gouvernement. Précision de Charlotte Urien-Tomaca.
Il est celui que l'on n'attendait pas dans le gouvernement. Absent de toute fonction gouvernementale depuis son départ de Matignon en décembre 2016, Manuel Valls fait donc son retour et hérite d'un gros portefeuille, celui des Outre-mer. Il devra notamment gérer la situation à Mayotte, dévastée par le passage meurtrier du cyclone Chido, la crise en Nouvelle-Calédonie et la question de la vie chère aux Antilles. Mais son dossier de prédilection, c'est la Nouvelle-Calédonie, qu'il avait géré de près lorsqu'il était à Matignon. Il s'était d'ailleurs montré critique de la gestion de la crise sur le Caillou, par Emmanuel Macron au printemps dernier. C'est en tout cas un rebond pour l'ex-premier ministre qui a enchaîné les déconvenues électorales aussi bien en France pour la primaire de la gauche en 2017 qu'à l'élection municipale de Barcelone en 2018 et aux législatives de nouveau en France en 2022. La surprise est d'autant plus grande qu'à chaque remaniement, son nom ressortait comme une plaisanterie, tant Manuel Valls était devenu synonyme d'opportunisme politique et de candidature automatique. La grande question désormais, c'est de savoir quelle sera l'attitude de son ancienne famille politique, le PS, vis-à-vis de son retour, le Parti Socialiste qui reste la clé pour éviter à François Bayrou de se faire censurer.
François Bayrou qui se dit persuadé que son gouvernement composé de 35 membres ne sera pas censuré et réfute toute influence du Rassemblement National. Ce n'est pas l'avis de la gauche qui grince les dents et fustige une provocation. Prochain rendez-vous le 3 janvier prochain pour le premier Conseil des ministres. François Bayrou qui estime ce lundi que le nombre de morts à Mayotte après le cyclone Chido se compte en dizaines et pas en milliers. Bilan provisoire de 35 morts. 8 jours après le drame, Mayotte panse ses plaies. Journée de deuil national ce lundi en hommage aux victimes. Mais pour les Mahorais, cela ne suffit pas. Il faut plus d'aide. Écoutez ce témoignage au micro de Nicolas Feldman.
On a bien conscience du soutien. Tout le monde a réussi à avoir des messages quand on a l'électricité. C'est vrai que ce deuil national, c'est quelque chose. Mais nous, ici, on est à J8 du cyclone. On n'a toujours pas d'électricité. On voit pas grand-chose. Nos collègues n'ont plus de toit sur leur maison. Elles dorment dans la pluie. C'est vraiment une catastrophe. Et quand est-ce que va venir l'aide? Donc la minute de silence, oui, mais l'aide avant tout.
Le Mozambique lourdement touché par le cyclone Chido, le bilan s'alourdit à 120 morts. Et c'est dans ce contexte que le Conseil constitutionnel a confirmé la victoire électorale du parti historique au pouvoir. Et ce, malgré les appels à un nouveau soulèvement populaire de l'opposition qui conteste ce scrutin. Avec 65% des voix, Daniel Chapeau reste donc à la présidence. Cette annonce survient après 2 mois de contestation qui a plongé le pays dans une crise politique sans précédent, faisant plus de 130 morts. Et cela pourrait empirer après l'ultimatum lancé par l'opposant Venancio Mondlane qui revendique la victoire et dénonce des fraudes. Réaction de Washington qui se dit inquiet de la validation des résultats. RFI, 8h04 à Moscou. La Corée du Sud avance un nouveau bilan des pertes nord-coréennes dans la guerre russo-ukrainienne. Il y a quelques jours, les États-Unis avaient estimé à plusieurs centaines les soldats nord-coréens tués ou blessés au front. Mais l'état-major sud-coréen a, semble-t-il, de nouveaux chiffres. Correspondance à Séoul de Camille Ruiz.
Environ 1100 soldats blessés ou tués en combattant l'Ukraine aux côtés des troupes russes. C'est en tout cas ce qu'a estimé l'état-major sud-coréen ce lundi. D'après les informations de la Corée du Sud, le pays voisin du Nord s'apprêterait à envoyer d'autres troupes en Russie et avec celles-ci du matériel militaire, dont des drones explosifs. En novembre, le leader nord-coréen Kim Jong-un avait ordonné la production massive de ces engins mortels. Toujours selon l'armée sud-coréenne, Pyongyang livre déjà des armes à Moscou. Parmi elles, des lance-roquettes et des canons d'une portée qui peut atteindre 60 mètres. Séoul pense que la Corée du Nord souhaite moderniser ses techniques de guerre avec l'aide du Kremlin. Les deux pays ont signé un traité de défense mutuelle historique qui est entré en vigueur au début du mois de septembre. Pour le moment, ni Pyongyang ni Moscou n'ont confirmé la présence des troupes nord-coréennes en Russie. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que le bilan des victimes nord-coréennes est plus élevé. Il déclare que plus de 3000 soldats ont été tués ou blessés dans la région russe de Koursk. Direction le Proche-Orient désormais. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évoqué lundi des avancées pour un accord sur les otages retenus dans la bande de Gaza, l'une des conditions pour un cessez-le-feu. Le Hamas et deux autres groupes palestiniens avaient affirmé samedi qu'un accord était plus proche que jamais. Benjamin Netanyahou qui veut, je cite, « changer radicalement le Moyen-Orient » en signant de nouveaux accords de paix avec des pays arabes, à l'image de ceux négociés en 2002 par les États-Unis qui ont vu Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Maroc et le Soudan établir des liens avec l'État hébreu. Washington insiste d'ailleurs pour normaliser les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. L'armée israélienne, poussée par la FINUL, a accéléré son retrait du Sud-Liban ce lundi, près d'un mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement libanais Hezbollah. Malgré la trêve, après deux mois de guerre, les deux camps s'accusent mutuellement de violations répétées. L'armée libanaise et les casques bleus de l'ONU doivent se déployer dans le sud du pays et l'armée israélienne s'en retirer sous 60 jours. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a appelé Paris et Washington à faire pression sur Israël. En Australie, plusieurs États font face à de fortes chaleurs en cette fin d'année. Des températures élevées, synonymes du retour des feux de brousse. Le sud du pays est en état d'alerte. Dans le Victoria, un important incendie a déjà ravagé 40 000 hectares. Et le pire pourrait bien être à venir, Léo Roussel.
L'incendie qui frappe la région montagneuse des Grampians à l'ouest de Melbourne est hors de contrôle et devrait brûler pendant encore plusieurs jours. Mais ce qui inquiète les autorités de l'état du Victoria, ce sont les conditions météorologiques qui risquent de se détériorer et de permettre l'apparition de nouveaux foyers. Les températures vont grimper pour Noël et le thermomètre devrait dépasser les 40 degrés pour le Boxing Day, le tout accompagné de rafales de vent, des conditions décrites par les pompiers comme les pires depuis l'été noir qui avait vu le pays subir les feux de forêt les plus importants de son histoire en 2019. Dans l'état voisin, l'Australie méridionale, plusieurs secteurs ont été placés en état d'alerte extrême face aux incendies pour les fêtes. Même chose en Australie occidentale où les températures ont dépassé les 40 degrés ce lundi. Cinq ans après les gigantesques feux de brousse, le risque d'incendie s'invite donc de nouveau pendant les fêtes en Australie. Les autorités ont appelé les citoyens à la plus grande vigilance. Léo Roussel, Sydney, RFI.
Au Japon, pas d'incendie dans les forêts, mais plutôt des ours. Le pays nippon va assouplir ses lois pour faciliter leur chasse. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a de plus en plus d'attaques, car leur population est en augmentation. Précision de Lucille Gimbert.
Il y a plus de 50 000 ours au Japon. C'est trois fois plus qu'il y a une dizaine d'années. La population d'ursidés a pu se reconstituer car les campagnes d'extermination qui avaient accompagné l'extension des villes à partir des années 60 au Japon ont cessé dans les années 90. Deuxième facteur, la population humaine, elle, diminue et les zones rurales se dépeuplent. Les agriculteurs japonais abandonnent les rizières et les champs, des zones qui jusque-là faisaient tampon entre les montagnes, territoire des ours, et les villes. Enfin, le réchauffement climatique pousse les ours à se rapprocher des habitations. En forêt, la hausse des températures affecte la croissance des plantes et la production de fruits et de noix que mangent les ours. Les faines de hêtres, les glands, les châtaignes, l'hibernation est aussi perturbée. Les ours restent éveillés et actifs plus longtemps. Résultat, les attaques se multiplient. Des randonneurs en montagne, une adolescente à un arrêt de bus, un employé de supermarché. En assouplissant les règles pour tirer des ours, le Japon espère freiner ces agressions parfois mortelles. Mais d'autres stratégies existent. Gestion des déchets, système de démarcation, chiens de surveillance pour tenter de mieux coexister.
Bientôt minuit 10 à Paris, 23h10 en temps universel. Ainsi se ferme ce journal où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté.